L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Et doublement bienvenue dans notre maison, maison radio. Le jeudi, c'est écologie, mais c'est aussi démocratie. Et c'est un peu des deux dans notre sujet du jour, puisqu'on s'intéresse à l'habitat. Mais pas n'importe quelle façon d'habiter. Nous, les humains, nous habitons de bien des façons. Alors parfois, on s'étale, on privatise un espace, on accumule les mètres carrés. On crée comme une bulle qui tiendrait à éloigner nos semblables. C'est la version misanthrope de l'habitat, le refuge contre un monde jugé hostile. Et puis parfois, on habite avec d'autres, on cohabite, on invente à plusieurs une façon de vivre entre la communauté ou le simple partage d'espace. Les formules peuvent être nombreuses, l'adjectif est alors participatif. Bon, c'est vrai que c'est un mot qu'on associe aussi souvent à la démocratie, démocratie participative. On va voir ce qu'il en est avec notre invité qui organise des rencontres régionales de l'habitat participatif samedi et dimanche, c'est à Brest. C'est Mona Housset qui est bénévole de l'association Habitat Participatif Ouest, c'est ça le nom de l'association ?
Oui, c'est bien ça.
Bonjour Mona.
Bonjour Véronique.
Alors déjà, voilà, bon c'est un peu ambitieux comme question, mais quand on dit habitat participatif, qu'est-ce qu'on entend par là en gros quoi, en général ?
Bah oui, tu as déjà donné beaucoup de définitions très intéressante. Alors c'est vrai que voilà, oui, c'est quand même un terme générique hein, qui recouvre une pluralité en fait d'initiatives toutes très différentes, d'origines variées. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y a pas deux habitats participatifs identiques ou semblables, mais qu'on est d'accord quand même sur le fait que c'est une démarche donc d'un groupe de personnes d'habiter ensemble autrement. J'ai envie de dire qu'il y a deux principes fondateurs. Qui sont en fait que les futurs habitants et usagers donc, vont participer activement à la programmation et à la conception de leur cadre de vie. Et puis, la deuxième chose, donc, c'est une action, je veux dire, collective, qui est développée donc, en parallèle du logement individuel avec des espaces partagés. Quand on se projette dans un habitat participatif, on va effectivement essayer de mutualiser un ensemble de choses. Qui peuvent être variés, hein, comme des espaces verts, comme une salle commune, une buanderie souvent, enfin voilà, un ensemble de communs, voilà, ouais.
Et ça, cette notion d'habitat participatif, est-ce que ça fait longtemps qu'on en parle ? Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait à peine une dizaine d'années, mais peut-être que je me trompe.
Ça date effectivement depuis une bonne dizaine d'années, disons, en France, avec un renouveau qui s'est plutôt appuyé d'ailleurs sur ce qui se passe au Canada, en Allemagne. Voilà. Et c'est vrai que pour continuer donc sur les espaces partagés, c'est vrai que c'est l'idée donc, que le groupe s'engage quoi, à faire vivre tous ces espaces. Quoi.
Qui vont profiter à tout le monde. Quoi.
Voilà.
Alors, ouais. Donc on a une définition globale, on va rentrer dans les détails puis des exemples tout à l'heure. Mais donc là, il y a des rencontres régionales. Alors, c'est régional, c'est quoi ? C'est Bretagne, Ouest ? C'est plus vaste que ça ?
Alors, HPO, oui, c'est Habitat Participatif Ouest. Grand Ouest, donc, qui réunit en fait la région Bretagne, la région Pays de la Loire, et puis aussi depuis peu la Sarthe. C'est une association qui existe en fait depuis 2017.
Ah oui,
donc le but. Effectivement, de cette association, c'est de capitaliser, rendre accessibles les ressources, de mettre en lien aussi donc celles et ceux qui souhaitent s'engager dans cette démarche, donc pour encourager, pour valoriser l'habitat participatif, mettre aussi en relation des groupes en émergence et les groupes existants. Donc c'est voilà, animer un réseau, on va dire que c'est l'animation politique en fait du réseau d'habitat participatif.
Il y a pas enfin il y a beaucoup de participants, enfin beaucoup de je sais pas si c'est vraiment des adhérents, les habitats en soi sont pas adhérents, mais combien il y en a qui sont identifiés dans cette zone-là ?
Ah, en termes de nombre d'habitats participatifs,
ouais, en gros, quoi.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas la carte en tête, effectivement, étant nouvelle dans le réseau. On est à peu près une dizaine d'habitats participatifs en Finistère.
Ah oui, donc ouais. C'est pas mal déjà.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Voilà. Et certains, enfin, il y a aussi bien sûr des projets. Quoi.
Donc l'association Habitat Participatif Ouest a, j'imagine, une activité courante et puis, de temps en temps, un temps fort, c'est ça, comme ce qui va
voilà,
venir.
Voilà, donc qui sont effectivement les 7e rencontres là, qui vont avoir lieu. lieu donc ce week-end donc à l'auberge de jeunesse de Brest.
Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu apparemment. En plus, c'était 2013 les dernières, c'est ça ?
Oui, donc c'est vrai que ça datait un petit peu, ouais. Et effectivement, là, il y avait ce besoin de se retrouver. Donc c'est vrai qu'il y a déjà eu des rencontres effectivement à Brest. Alors qu'effectivement, on est Grand Ouest, quoi. Ouais, on a quand même une volonté, en fait, sur le Finistère, en fait, d'animer ce réseau.
Ouais, il faut croire qu'il y a aussi un prisme. Et puis peut-être que, bon, ben, là, ça valait le coup aussi, parce que la période qu'on traverse a changé un peu la donne. Enfin, il y a sans doute des nouveaux besoins qui sont apparus. Et donc, ça serait quoi les nouvelles données qui seraient favorables, en tout cas, à l'habitat participatif ?
Oui, je pense qu'effectivement, là, il y a beaucoup de demandes, hein, depuis de ce qu'on vient de vivre, les deux années de confinement, hein. Je pense qu'effectivement, ça répond à des besoins et des attentes aujourd'hui de beaucoup de citoyens. J'ai envie de dire que je définirais comme un besoin d'authenticité, quoi, de donner plus de sens à notre vie, donc en recréant du lien. Je crois que ça, c'était un des principes fondamentaux en fait de l'habitat participatif, quoi. Donc de sortir d'une course à la consommation individuelle. Donc je crois que on passe du temps, c'est vrai, quand on est dans un habitat participatif, puisque moi-même, je suis habitante d'un habitat participatif, on passe effectivement du temps dans faire vivre le commun, échanger, sur... se rencontrer, déjà, on va effectivement, quand on croise une personne de notre habitat, même quand là, par exemple, je viens de venir ici, je vais échanger 2-3 mots avec ma voisine qui revenait aussi, elle, de course,
qui écoutera l'émission, sans doute.
Bien sûr.
Donc, du lien, normal.
Voilà, donc avec, du coup, j'ai envie de dire, simplement, comme je le disais là, avec ses voisins, son environnement proche, c'est peut-être vivre ce qui était vécu il y a 40, 50 ans dans les quartiers, et qui se vit encore dans certains quartiers sans qu'il y ait forcément un habitat participatif. Mais il y a vraiment une demande autour de cet objectif-là.
Lutter contre la solitude, on pourrait dire ça aussi. Hein,
voilà, finalement. Donc c'est oui. Alors donc ça, on va en parler effectivement, notamment par rapport au vieillissement. Hein, c'est un nouvel enjeu de l'habitat participatif. Mais je dirais donc enjeu de société, s'investir aussi donc dans la transition écologique. Hein, donc notamment avec un impact de la construction sur notre environnement.
Donc là, il s'agit de moins consommer de surface, quoi. En fait, c'est ça, tout simplement.
Donc, notamment avec une emprise au sol des bâtiments. Enfin, vraiment, il y a une réflexion là-dessus, c'est justement par le biais des communs aussi qu'on peut réduire la surface individuelle de notre propre logement, parce que dans un habitat participatif, on a chacun un habitat individuel.
Hein, on a son espace à soi.
Son espace à soi, et puis on essaie de partager, de rendre collectif tout ce qu'on peut faire donc à ce niveau-là, que ce soit donc des chambres d'amis, une buanderie, comme je disais, un atelier, abri vélo, je cite un petit peu tout ce qu'on a nous chez nous.
Parfois ça peut être une cuisine, ça dépend des habitants.
Une cuisine avec une pièce commune.
Mm-hmm. Bah, plutôt que d'avoir 10 cuisines, on a une cuisine pour 10.
Ça peut être des exemples comme ça. C'est à chaque groupe de mettre le curseur sur ce qu'il veut garder d'individuel et ce qu'il veut mettre en collectif. Donc effectivement, ça permet de réduire, un autre impact de bâtiment. Et puis, il y a aussi une réflexion forte sur l'impact des matériaux qu'on va utiliser.
Que ce soit en général, c'est pas n'importe quoi.
Voilà, que ce soit en rénovation ou en neuf, on va privilégier souvent des matériaux écologiques. Et puis, on réfléchit beaucoup à la réduction de notre consommation des énergies.
Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est pareil, quand on a moins de pièces, en tout cas, normalement, on économise aussi là-dessus, sur le chauffage.
On va penser aussi, même du coup dans le choix du terrain, exposition, tous ces paramètres vont rentrer en compte.
Ah oui, donc on comprend quand même que finalement l'habitat participatif, ça commence avant même la construction de l'habitat, c'est ça ?
Bien avant, oui.
Ouais.
Ouais. Et juste le dernier point effectivement auquel je pensais sur les enjeux de société dont on a juste abordé tout à l'heure, le vieillissement, quoi.
Alors oui.
Parce qu'effectivement, y a une... Puis c'est peut-être là aussi qu'on va intéresser les collectivités beaucoup plus. Sur le fait de ne pas rester seul. Et l'idée, je crois, du besoin d'une autre forme d'habiter, donc entre la maison où on a élevé ses enfants, la maison familiale qui devient surdimensionnée à un moment, quoi. Et puis la maison de retraite, j'ai envie de dire.
C'est ça.
Donc c'est vraiment quelque chose à inventer.
Des personnes âgées qui peuvent se faire aider par des plus jeunes ou qui s'entraident.
Alors du coup, on va retrouver deux types d'habitats. qui sont en fait soit des habitats participatifs qui vont faire le choix de l'intergénérationnel, et effectivement il y a une entraide du coup entre personnes jeunes et plus âgées, et nous dans l'habitat dans lequel je suis, oui, donc je suis habitante des Cocoum à l'Opérette, et bien en fait ça c'est vraiment ça se vit quoi, hein. On a notamment notre doyenne qui, oui, c'est vrai, il y a 10 ans, était une jeune retraitée, qui est toujours jeune d'ailleurs. Bien mais sûr. C'est vrai qu'elle a donné beaucoup de son temps comme ça, aller chercher les enfants de parents qui étaient indisponibles ou garder les enfants. Donc c'est vrai que, voilà, et peut-être qu'un jour, j'espère, on pourra effectivement l'aider si à un moment elle a besoin aussi. Donc,
quand elle sera un peu moins mobile.
Donc ça,
et
c'est
moins
sur
alerte.
Le projet, voilà, des projets d'habitat plutôt intergénérationnel. Et puis aujourd'hui, il y a des habitats participatifs qui sont formés que de gens retraités, qui font ce choix de se retrouver ensemble, de vieillir ensemble.
Et même parfois que de femmes, comme les maisons de Baba Yaga
aussi, oui, ouais. Voilà. Mais effectivement, sur le Finistère, on a deux habitats qui sont plutôt composés de gens retraités, qui est Tikéline, donc à Plomelin, et Koulkoz, donc à Plabennec. Voilà, un choix d'habitants en fait qui ont pensé au vieillir, comment vieillir quoi.
Et dans les enjeux, on n'a pas évoqué, mais c'est peut-être aussi une réalité, le souhait de mixité, alors plutôt sociale cette fois, entre des gens qui ne se seraient pas forcément fréquentés.
Oui, alors nous ça faisait partie de nos objectifs dans notre charte effectivement avec Cocoum, donc de la mixité sociale. Alors c'est vrai qu'elle a été, j'ai envie de dire, assez réussie. Alors c'est vrai que du coup ça implique peut-être d'autres formes de construction. On a une tiny house, par exemple. On a un mixte de logements. Donc, ça veut dire qu'on a laissé quand même, par le choix de nos statuts, donc une conception un peu individualisée pour chaque foyer. Bien sûr, qui respectait quand même une charte, notamment sur le volet écologique. Quoi. Mais ça a été permis par ce choix-là.
Permettre des plus petits logements qui coûtent moins cher, en fait. En gros,
par exemple,
ça, quoi.
Ou l'autoconstruction. Alors que si on fait une barre, un ensemble collectif, l'autoconstruction sera plus difficile. Donc, ça nous a permis en fait, de pouvoir accueillir la mixité sociale. Et aujourd'hui, il y a tout un travail de fait, alors notamment sur des grands ensembles, dans des villes, avec des bailleurs sociaux. Donc une chance qu'on a encore en France d'avoir un parc de logements social important. Et donc, il y a vraiment toute une articulation à construire avec les bailleurs sociaux. Donc, on n'a pas d'exemple encore, achevé en Finistère. Enfin, c'est souvent une juxtaposition. Nous-mêmes, on a bien un bailleur social à côté de nous, mais on n'a pas forcément nous réussi vraiment notre intersection. Ça peut bouger
encore. C'est pas perdu.
Voilà, c'est pas perdu. On a effectivement l'exemple de Tikéline, donc à Plomelin, où là, il y a bien un bâtiment. Alors là aussi, un bâtiment séparé quand même du bailleur social, le bâtiment de Tikéline. Et il y a la maison commune, sera entre les deux. Ah, et oui. Utilisé par les deux groupes d'habitants, quoi. Donc, il y a d'autres projets où le bailleur social est complètement intégré au projet. Donc, comme je suis moi en formation actuellement, donc sur l'accompagnement, donc j'étais dernièrement à Mascobado, par exemple, à Montpellier, où là, d'ailleurs, le maître d'ouvrage était le bailleur social. Puis après, donc, avec
c'est lui qui construit les logements. Quoi.
Alors du coup, il assure la maîtrise d'ouvrage, mais en intégrant dès le départ tous les futurs habitants. Quoi.
Et peut y avoir un mixte en fait entre des locataires des propriétaires.
De l'accession en fait. À la propriété, des propriétaires, Et ça, là, alors c'est ça qui est intéressant puisque du coup, ça apporte aussi une compétence quand il s'agit de grands ensembles, de la maîtrise d'ouvrage par le bailleur social.
Enfin, là, ça me fait penser justement à propos de grands ensembles. Il y a eu quand même des utopies, entre guillemets, d'habitat peut-être, alors participatif peut-être pas, mais en tout cas un peu collectif, comme, je pense à la Cité Radieuse.
Oui. Ça, c'était la première génération. Et c'est vrai, alors, moi, le retour qu'on a fait, c'était de dire, oulala, ça a été très compliqué pour les architectes. En fait, c'était un ensemble de jeux. Et du coup, les architectes se sont un peu tirés sur les cheveux, paraît-il. Mais après, il y a eu des choses quand même réussies. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, là, le renouveau de l'habitat participatif, donc, qui date des années... Fin des années 90, 2000, quoi, s'appuie beaucoup plus sur ce qui se fait effectivement en Allemagne, au Canada. Quoi.
Ah oui, parce qu'il y a d'autres pays qui sont plus en avance que nous sur cette question.
Alors notamment ces pays-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas de politique de social du logement, bailleurs sociaux. Et donc, ça a été un peu la façon justement d'y remédier, quoi.
Mm-hmm. En effet,
oui. Alors que nous, on a cette chance de peut-être pouvoir...
Mais alors, ce qu'on comprend, c'est que dans Habitat Participatif, il y a évidemment participatif, c'est important. C'est-à-dire que c'était peut-être pas le cas de la Cité Radieuse. Enfin, là, l'idée, c'est quand même vraiment que dès le départ du projet, les habitants vont formuler ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça? Comment ça se passe, en fait, une conception d'habitat participatif, enfin, pour donner des grandes lignes,
hein? Oui. Ben, effectivement, aujourd'hui, si on prend les exemples du Finistère, ce sont beaucoup donc, des projets en autopromotion. Ça veut dire que c'est un groupe qui se constitue, qui travaille ensemble sur les valeurs et donc... Voilà. Après, quid de trouver le terrain.
Oui, ça, c'est pas une mince affaire.
De s'entendre aussi, parce que souvent... Donc, c'est vrai que c'est tout un processus. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que beaucoup, en fait, de projets n'aboutissent pas, quoi.
Oui.
Donc ça fait un peu peut-être partie...
On va y venir, bien sûr.
Des freins. Mais c'est vrai que du coup, ça nécessite aujourd'hui, je pense, qu'il faut qu'on aille vers un accompagnement professionnalisé. Alors on a une structure, on a deux structures même, hein, qui sont sur le territoire, donc HPO, qui sont des structures d'accompagnement. Donc on a l'époque, mais qui est basée en Ille-et-Vilaine. Et on a Écohabitants qui est basé à Nantes.
Ce sont des associations? Qu'est-ce que c'est?
Alors,
comme type de structure?
Elles ont un statut associatif pour l'instant. Elles réfléchissent peut-être à un statut un peu plus professionnel aussi.
De toute façon, elles se font rémunérer, j'imagine, pour accompagner les gens dans la constitution.
Voilà. Oui, alors, c'est
normal.
Hein, ouais, voilà. C'est ça, en fait. C'est, aujourd'hui, les groupes sont en autopromotion ne sont pas toujours prêts à mettre un budget sur l'accompagnement, quoi.
Et pourtant, c'est nécessaire.
Ouais. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui, effectivement, qu'il y a un besoin, certainement, de professionnalisation de l'accompagnement. C'est un nouveau métier, en fait.
C'est ça.
Je crois qu'il faut penser. En Allemagne, les habitats participatifs se font toujours avec un accompagnement. De même qu'on va payer un notaire, on va avoir un accompagnement, quoi.
Bah, en même temps, mieux vaut avoir, avant d'habiter ensemble, une idée de si on s'entend bien, déjà.
Voilà, et en fait, c'est dire on s'entend bien, mais alors c'est sûr qu'il faut le mettre comme principe, en fait, de base, qu'on va réussir à s'entendre, mais pour ça, il faut mettre en place des outils, quoi.
C'est ça.
Et c'est vrai que, ça me fait. C'est l'idée d'en fait d'un ensemble de personnes donc, qui arrivent avec des jeux et de passer au projet ou passer au nous, quoi.
Oui.
Et donc il faut construire un cahier des charges effectivement donc qui permette d'avancer parce que d'où effectivement beaucoup de projets qui s'usent parce que n'arrivent pas à bien on va dire serrer les différentes étapes quoi du projet. Et effectivement, il y a un ensemble de questions à se poser quand on fait cette démarche. Bon, j'en ai noté certaines un peu s'interroger, enfin l'ensemble du groupe sur son rapport à la propriété. Est-ce qu'on veut être propriétaire ou rester locataire avec un plutôt type coopérative? Les valeurs du projet. Donc, après, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est récurrent dans les projets, comme les valeurs sociales, la valeur environnementale, mais avec des curseurs aussi tout à fait différents d'un projet à l'autre. Qui construit, justement? Est-ce qu'on veut auto-construire? Est-ce qu'on va faire appel à des entreprises? La gouvernance. Alors ça, c'est un point...
Ah, une fois que le logement est construit, c'est ça? Comment est-ce qu'on va...
Ah oui, mais même dans la prise de décision pour avancer dès le départ, quoi. Hein. Donc, c'est vrai que ça demande donc, de s'outiller, on va dire, des outils d'intelligence collective.
Et d'un statut, peut-être, aussi, non?
Eh bien, et voilà. J'ai envie de dire, c'est après, en fait, que ça va nous donner le statut.
Ah bon, d'accord.
Parce que, justement, il ne faut pas commencer par le statut. Il faut d'abord, justement, chercher qu'est-ce qu'on veut mettre en commun, quelles sont nos valeurs. Donc comment on veut prendre nos décisions? Alors c'est vrai que c'est je parlais de la prise de décision consentement, ça c'est vraiment la base. Il faut de la méthodo, il faut des outils. Qu'est-ce qu'on est prêt aussi à laisser en chemin? Parce que combien d'années on se donne pour monter notre projet? Donc la rapidité, donc est-ce qu'on veut être super écolo, mais bon, en fait, est-ce qu'on a les budgets? Enfin, donc il y a tout ça, en fait, à poser. Et j'ai envie de dire, c'est à partir de là qu'on va trouver son statut, quoi.
Ah oui. Et en général, c'est quoi les statuts qui fonctionnent bien, en tout cas pour l'habitat participatif?
Oui, alors la SCIA, la Société Civile Immobilière d'Attribution, a l'air d'être un statut qui fonctionne assez bien.
Juste un statut de copropriété, non?
Alors après, la SCIA peut se transformer en copropriété.
Oui.
Donc ça veut dire d'attribution, ça veut dire, donc une fois les travaux terminés, elle peut se dissoudre et passer en copro, mais elle peut rester, et du coup si elle reste, elle les logements, en fait, sont donc en jouissance, quoi. Mais c'est vrai que Tikéline est, est une SCIA et pour l'instant, ils la maintiennent parce qu'ils disent que c'est ce qui fait aussi la communauté, quoi. Est-ce qui maintient le collectif, quoi.
Et ils n'ont pas pour autant créé d'association en plus pour...
Si, pour animer la maison commune. Quoi. Voilà. Donc c'est souvent... l'association, elle va arriver souvent au départ du projet. Donc, on appelle ça une association de préfiguration, en fait, un petit pour identifier un groupe. Ça peut permettre d'aller chercher des subventions, ou d'aller voir une mairie, d'aller voir tous les partenaires, parce que justement...
faut des partenaires.
Voilà, on pourra en parler tout à l'heure. Voilà, c'est très important, en fait, effectivement, d'avoir... comme dans une construction, on a besoin d'une collectivité, enfin de la commune, on a besoin d'un notaire, on a besoin de tous les acteurs donc, qui sont autour de l'habitat, quoi. Donc,
voilà les questions qu'on s'est posées. Il y en a d'autres encore, des questions essentielles.
Je dirais que voilà, là, on a fait un petit peu le tour sur le cahier des charges, on va dire, qui va nous aider à définir le statut. Quoi.
Et donc là, on a effleuré un peu, l'émission avant de vite, c'est vrai, on a effleuré les formes d'habitat participatif. Bon, en gros, il y a du collectif, genre peut-être immeuble avec des espaces communs, il peut y avoir des hameaux comme à l'opérette. Bon, là, chacun sa petite.
En copropriété, en fait, à l'opérette.
D'accord.
Donc, on parlait des statuts. Bon, je disais que la SCIA, elle répond à pas mal de, en fait, des besoins en fait, identifiés. Mais après, effectivement, la copropriété aussi fonctionne bien.
Donc, chacun est propriétaire de sa maison. Et puis, vous êtes propriétaire d'une parcelle de jardin. Enfin, comment ça marche?
Alors, pour l'opérette, en fait, c'est une copropriété horizontale, méthode Steimer. Alors, le terrain appartient à la copropriété. On a tous eu un droit à construire. Et donc, ce droit à construire, on l'a mis identique pour que, lorsqu'on prend des décisions, une personne, une voix, enfin un foyer, une voix, et voilà, on est tous à égalité.
Même si vous n'avez pas la même surface, forcément. Quoi.
Après, utilisé ou pas. Après, on a aussi un petit espace extérieur, individuel aussi, qui peut être une terrasse, un jardinet, donc qui est attenant à la maison. Et après, tout le reste donc, est géré collectivement. Et
puis, bien sûr, on a une maison commune.
Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, on a une maison commune, donc, avec pour les chambres d'amis. La grande pièce commune, un coin bouquin, librairie. On a une buanderie aussi dans cette maison commune. Une
machine à laver, tout ça, quoi.
Ah, donc, plusieurs machines à laver,
C'est ça. Voilà. Ouais.
Et puis, depuis peu aussi, on a... C'est pour ça que j'ai envie de dire, alors, habitat participatif, écolieu, parce que quand on parle d'habitat participatif, on parle bien d'habiter. Et là, on commence à créer des petites activités, puisqu'en fait, il y a une pièce qu'on a aménagée donc, pour une des habitantes qui vient de monter sa savonnerie.
Voilà. Fabrique, c'est ça.
Et on a une potière, mais elle va repartir s'installer ailleurs. Mais voilà, on a aussi du coup.
C'est intéressant. Activités. Oui, on peut avoir des activités économiques, voire un petit commerce, pourquoi pas.
Alors un petit commerce, non, puisqu'on n'est pas sur une zone de commerce.
Bien sûr, mais ça pourrait dans un autre éco-hameau, ça serait envisageable.
Ouais.
D'accord. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. Alors de quoi va-t-on parler? Ben des retours d'expérience, peut-être. Non.
Oui, on peut parler.
En gros, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Sur la richesse, j'ai envie de dire, c'est le vivre ensemble, hein, c'est sûr. Hein, la solidarité, l'entraide, j'en ai déjà un petit peu parlé, d'un bon voisinage. Une des richesses que je vois, ça a été à partir justement d'une visite sur Toulouse, d'un habitat participatif qui est en coopérative, mais dans un ensemble, quoi, et qui est aussi et dans un écoquartier, donc qui est labellisé écoquartier. Et en fait, ils se sont dit, on a une vraie puissance, une vraie réappropriation citoyenne, quoi, parce qu'on se connaît tous, on a des plénières chaque mois, et ce qui fait que dans cet écoquartier, je prends cet exemple, quand Ikea a voulu venir y faire des bureaux, une tour, tous ces citoyens, ils se connaissaient déjà et ils ont pu tout de suite s'organiser pour dire nous, on ne trouve pas que c'est vraiment compatible avec une zone en écoquartier. Donc voilà. Donc ça, c'est l'idée aussi de revenir pleinement des citoyens, quoi, par le biais de l'habitat participatif et de se réapproprier son quartier, son voisinage. Et ça, c'est un élément pour moi qui est très fort, quoi. Voilà, pour les richesses. Alors, les freins, on les a un petit peu abordés tout à l'heure. C'est, je pense, effectivement, aujourd'hui, encore un manque de professionnalisation autour de l'accompagnement. Donc, je crois qu'il faut que ça soit amplifié, que ça se développe, puisque, comme je le disais, il y a bien deux structures, mais une à Rennes, une à Nantes. Et puis, je dirais aujourd'hui, la méconnaissance, en fait, de cette forme d'habiter, par les élus.
Ah oui.
Qui pour réussir nécessite en fait d'avoir tous les partenaires autour de la table. Alors j'ai envie de dire malgré la loi, hein, puisqu'il y a eu la loi Allure en 2014 hein, qui reconnaît donc les coopératives habitants et les sociétés d'attribution et d'autopromotion, en fait qui a un statut qui ressemble un peu justement à la SCIA dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut effectivement qu'en amont, les collectivités s'investissent plus, notamment l'inscrivent dans les PLU, par exemple.
Hein. Le PLU, ouais, le voilà, plan local d'urbanisme. Ouais, ouais.
Et puis participent. Nous, c'est vrai qu'à l'opérette, on a eu cette chance d'avoir un portage foncier, le temps en fait, qu'on structure notre groupe, qu'on trouve notre statut. Quoi.
Ouais. Donc, c'est la commune voilà. qui a aidé. Là.
Oui, ouais. voilà.
Donc, mais ça oui. peut être une interco. Enfin,
oui, bien ouais. sûr. Hein, donc, et puis bah, aussi, voilà, oui, trouver aussi des architectes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une évolution
ouais, ça commence à venir,
dans ce domaine. Ouais. Ouais. Voilà. Mais tous les bons partenaires qui font le tour.
Bon, alors il nous reste quelques petites secondes pour parler du programme. Mais de toute façon, on le retrouvera sur Internet, le programme. Donc samedi et dimanche, qu'est-ce qu'il y aura donc, à Brest pour ces rencontres ?
Effectivement, il faut aller sur le site HPO, hein, le programme...
Habitat Participatif Ouest.
Oui, voilà, il est inscrit. Ouais. Alors, ce qui est justement, bah, par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ce qui est vraiment intéressant, c'est les tables rondes du matin, du samedi matin, notamment la première, qui est « Comment provoquer la rencontre de l'habitat participatif ?» et des nouvelles politiques publiques de l'aménagement. Quoi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, elles sont très, très nombreuses, toutes ces politiques, hein, que ce soit les SCOT, dont on a parlé des PLU, du PLH, des co-quartiers, éco-bourgs, les petites villes de demain, revitalisation des bourgs. Donc, c'est plein d'outils qui sont peut-être parfois vus comme des contraintes, mais qu'il faudrait tout au contraire, en fait, voir comme des ouvertures pour catalyser et inclure l'habitat participatif dans ces politiques. Quoi. Donc cette table ronde, elle sera dédiée à cela. On aura sur cette table ronde donc Émilie Cariou de l'ADES, alors Morlaix maintenant, oui. qui sera intervenante sur cette table ronde. On aura aussi François Martin, qui est architecte urbaniste et administrateur donc de l'époque. Donc voilà, donc je pense que c'est une table ronde très intéressante là pour justement qu'il y ait du lien qui se fasse avec tous ces acteurs qui sont indispensables, j'ai envie de dire. Il y aura aussi la deuxième table ronde qui sera autour de l'habitat participatif justement et les nouveaux enjeux. Donc justement, Habitat Léger, donc, qui existe aussi aujourd'hui, hein, qui est présent d'ailleurs sur le Finistère, je crois que c'est sur Comana.
Oui, bien sûr. Tout ce qui est mini-maison, yourte, etc.
Voilà, enfin, oui. L'habitat c'est-à-dire qu'on peut vraiment déplacer, presque une empreinte
minimale,
zéro, lorsque, par exemple, on se retire du lieu ou du projet. Quoi.
Bon, puis on pourra aussi visiter certains lieux, etc. On ne va pas pouvoir continuer avec le programme, mais on va remercier l'association Habitat Participatif Ouest et renvoyer les gens vers son site internet. Merci Mona, à bientôt.
Merci.